revenant en arrière, et l'événement dont il va être question entre en résonance avec l'actualité la plus chaude. Ce qui s'est passé le 30 octobre 1961 a lieu en Russie et ébranle le monde, ébranlé au sens propre d'ailleurs.
Nous sommes au-dessus de l'archipel de la Nouvelle-Zemble, tout au nord de la Russie, dans l'océan Arctique. Aux commandes de son Tupolev, le major Andrei Dournotsev doit être un peu tendu. Il s'apprête à larguer une bombe de 8 mètres de long et de 2 mètres de diamètre. C'est une bombe H, c'est-à-dire à fusion nucléaire. Et c'est surtout la plus grosse jamais conçue. En ce 30 octobre 1961, elle est donc lâchée à 13 000 mètres d'altitude, équipée de parachutes pour permettre au Tupolev d'avoir le temps de s'éloigner avant l'explosion. Après une chute libre de près de 9 km, la bombe explose à 4 000 mètres au-dessus du sol. Le champignon atomique fera 64 km de haut. Cette bombe est un monstre. Elle reste encore à ce jour la plus grosse bombe atomique de l'histoire. Les Russes l'avaient baptisée Ivan. Les Américains lui donnèrent un nom plus évocateur, la Tsar Bomba.
Ouais, la bombe du Tsar, la reine des bombes. Pour en prendre toute la mesure, Pierre, tentons de la comparer avec la bombe qui a rasé Hiroshima en 1945, s'il vous plaît.
Eh bien, l'énergie contenue dans la bombe d'Hiroshima était de 15 kilotonnes. On estime qu'elle a fait 100 000 morts. La bombe soviétique de 1961 n'a évidemment pas fait de morts, de victimes, mais elle avait une puissance de 50 mégatonnes.
Alors, c'est davantage.
Ah oui, c'est beaucoup. Alors ne sortez pas votre calcul, El Pascal. Hein, cela fait, je calcule pour vous, 3333 fois plus.
Ouais.
De quoi donner tout de même le frisson. Ouais. Le pire, si je puis dire, c'est qu'au départ, il était prévu que cette bombe soit deux fois plus puissante. C'était le souhait de Nikita Khrouchtchev, soucieux de démontrer la puissance soviétique, mais inquiet des retombées, le concepteur de la bombe lui fit admettre qu'on pouvait se limiter, si j'ose dire, à 50 mégatonnes au lieu des 100 initialement prévus.
Et ce physicien nucléaire, concepteur de la bombe, est d'ailleurs devenu célèbre par la suite. Il s'agit d'Andrei Sakharov.
Eh oui, Andrei Sakharov, un des pères de la bombe atomique soviétique, pour rattraper le retard sur les Américains au début des années 50. Il participe ensuite à la conception de la bombe H, puis la Tsar Bomba. Mais dans les années qui suivent, il se pose de plus en plus de questions. Quel sens a tout cela? La course aux armements nucléaires est un risque existentiel pour le monde, particulièrement, estime-t-il, dans son pays, l'URSS, qui, à ses yeux, cumule militarisation excessive et bureaucratie de l'État. C'est comme cela que Sakharov voyait son pays dans les années 70. On se dit que les choses n'ont peut-être pas tellement changé 50
peut-être
ans plus
pas.
Tard. Alors, quoi qu'il en soit, le père de la Tsar Bomba est entré en dissidence. Il s'est vu décerner le prix Nobel de la paix. Il devient un symbole de la liberté d'expression. Mais il a dû aussi vivre en résidence étroitement surveillée. Et oui, on ne remet pas impunément en cause la doctrine militaire nucléaire soviétique.
Une doctrine qui se fondait sur la dissuasion à l'époque des deux blocs où Est et Ouest se sont fait face durant la guerre froide. Et cette course aux armements effrénés a encore des conséquences aujourd'hui, Pierre.
Oui, parce qu'on peut dire que l'arsenal nucléaire mondial est la conséquence directe de la guerre froide. Ainsi, selon les chiffres de l'Institut de Recherche Internationale pour la Paix de Stockholm, les États-Unis détiennent aujourd'hui environ 5500 ogives nucléaires et la Russie 6000. À comparer aux 225 têtes nucléaires britanniques et aux 290 françaises. En fait, en dehors de ces quatre-là, 5 autres pays détiennent également l'arme atomique, tous en Asie, Israël, l'Inde, le Pakistan, la Chine et, bien entendu, la Corée du Nord. Mais au total, 9 armes nucléaires sur 10 dans le monde sont soit russes, soit américaines.
Et parmi ces armes nucléaires, Pierre, on parle d'armes stratégiques et d'armes tactiques. C'est quoi qui en fait la différence?
Bien, les stratégiques, ce sont les héritières de la Tsar Bomba. Elles sont d'une puissance telle qu'elles doivent dissuader tout ennemi de vous attaquer. Par contre, les armes tactiques ont une puissance limitée parce que théoriquement, elles ont vocation à pouvoir être utilisées sur un champ de bataille. Alors concrètement, elles sont conçues pour frapper des cibles à des distances relativement proches, jusqu'à 300 km selon un document de l'OTAN. Quant à la puissance, elle va de 1 à 100 kilotonnes. Je vous rappelle tout de même, Hiroshima et Nagasaki, c'était respectivement 15 et 20 kilotonnes. Alors quand on voit la force de l'irradiation et l'importance des victimes et des destructions qui en ont résulté, il y a tout de même de quoi réfléchir à deux fois avant de déclencher ces fameuses armes nucléaires tactiques. Le risque paraît énorme, mais vous savez que dans ce monde incertain, on ne peut rien exclure. Alors, en résumé, Pascal, depuis 1945, la menace nucléaire varie en intensité en fonction des tensions internationales. Et qu'elle soit tactique ou stratégique, l'existence même des armes nucléaires fait courir un risque à l'humanité, mais on a guère d'autre choix que d'apprendre à vivre avec.
Allez, pas besoin de sorcière pour nous faire frissonner. C'était L'œil dans le rétro, signé Pierre Marlet, que vous